Les précipitations sont tombées en 24 heures sur des sols déjà gorgés d'eau. La Meurthe-et-Moselle, les Vosges et le Bas-Rhin sont toujours en vigilance orange. Le projet de loi fin de vie qui crée une aide à mourir en France, approuvé par les députés en commission. Une version du texte un peu modifiée avec un changement de formulation. Le critère du pronostic vital engagé à court ou moyen terme est remplacé par la notion d'affection en phase avancée ou terminale. Trois jours après l'attaque d'un fourgon pénitentiaire et la mort de deux agents dans l'heure, trois des quatre syndicats majoritaires appellent à la fin du mouvement de blocage des prisons. Ils ont signé les propositions du ministère de la Justice qui doivent renforcer la sécurité des agents pénitentiaires. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a demandé lors d'une réunion à Matignon sur la Nouvelle-Calédonie ce vendredi soir un report de la convocation du Congrès qui doit valider la réforme constitutionnelle sur le dégel du corps électoral dans l'archipel. Les députés et sénateurs doivent se rassembler avant la fin juin, selon Emmanuel Macron. La présidente de l'Assemblée nationale estime qu'il faut d'abord un dialogue et une mission de conciliation. Sur place, la nuit a été plus calme que les précédentes. Selon les autorités, 5 personnes sont mortes depuis lundi. La consultation médicale revalorisée à 30 euros à partir du 1er décembre, c'est la proposition dans un projet d'accord finalisé entre l'assurance maladie et les médecins généralistes. Le texte doit désormais être validé par une majorité des syndicats de médecins libéraux. Une augmentation des tarifs est aussi prévue pour les spécialistes. Le roi Charles III et la reine Camilla se rendront en France le 6 juin pour les célébrations du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Ce sera le premier voyage du monarque depuis l'annonce de son cancer. Charles III assistera à une cérémonie au mémorial britannique de Vers-sur-Mer dans le Calvados et c'est le prince William qui représentera le Royaume-Uni lors de la cérémonie internationale à Omaha Beach. L'Olympique lyonnais, une nouvelle fois champion de France de football. Les joueuses lyonnaises se sont défaites de leurs meilleurs ennemis, les parisiennes 2-1 en finale du championnat. L'OL accroche un 17e titre en 18 saisons. En Ligue 2 chez les garçons, Angers va retrouver la Ligue 1. Relégué l'an dernier, les scoïstes terminent 2e du championnat derrière Auxerre et devant Saint-Etienne. La SSE qui devra remporter les barrages pour jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Sur la route des Verts, il y aura le vainqueur du match Rodez-Paris FC, respectivement 4e et 5e du championnat. Et c'est une fin de parcours en Ligue 2 pour Concarneau, le promu qui redescend en national, accompagné de Troyes, Quevilly et Valenciennes. Et les guerrières de Villeneuve-d'Ascq, elles ont été sacrées championnes de France de basketball ce vendredi soir, avec une large victoire 114 à 88 dans le deuxième match de la finale face à Basketland. Et c'est le deuxième titre des nordistes qui joueront à nouveau en Euroleague l'an prochain, après leur finale européenne cette saison.
Les Nuits d'Inter, la suite, avec grand bien vous fasse.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Ils ont été critiqués, vilipendés, moqués et pourtant, 150 ans après la création de leur mouvement, le 15 avril 1874, les impressionnistes continuent de nous impressionner, de nous émouvoir, de nous éblouir. Claude Monet, Sisley, Degas, Auguste Renoir, Camille Pissarro, Berthe Morisot et d'autres ont contribué à changer notre regard. Comme l'écrit l'un de nos invités, Xavier Mauduit, les impressionnistes nous ont rendus sensibles à la couleur, à la lumière, au mouvement dans la nature. Pour célébrer le plaisir de regarder des tableaux impressionnistes, nous recevons également Sylvie Patry et Cyril Siama. Notre chef Grégory Corinne vous proposera une recette inspirée de Claude Monet à partager ce week-end. Et la journaliste Christine Pelédouel rendra hommage à l'immense conteur Henri Gougaud, récemment décédé. Bonjour Thibault de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Quel est le menu de votre chronique philo ?
Eh bien, dans impressionnisme, il y a impression. Ça ne vous aura pas échappé. Question donc, faut-il se fier à ces impressions ?
Bonjour Sandra Colombo.
Bonjour.
Autrice, comédienne et humoriste, vous remplacez Guillemette Odissino, partie couvrir le Festival de Cannes pour Télérama. Alors, qui deviendra notre ami cette semaine, Sandra ?
Eh bien, je vais vous parler de Vincent Van Gogh.
Merci, ça me donnait envie. Mais vous retrouverez Julie Neveu très bientôt dans cette émission, évidemment. Bienvenue dans Grand Main vous fasse la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Ali Rebéi.
Notre chef qui prépare l'ouverture de plusieurs restaurants à Rungis, dans le Val-de-Marne. Ce sera début juin, normalement. Petit avant-goût de votre recette, inspirée de Claude Monet.
Alors Claude Monet adorait manger et il adorait
Il ne cuisinait pas, mais il mangeait.
Mais il mangeait
énormément.
Pas mal. Et il adorait, son dessert préféré, c'était un gâteau de gêne. Et donc, quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir.
Ça commence bien.
Et c'est ce fameux gâteau que je vais vous révéler tout à l'heure.
Bonjour Christine Lapelle-Edouel.
Bonjour Ali.
Journaliste indépendante et l'autrice chez Marabout de ces livres qui nous font du bien. Bande-annonce de votre choix littéraire tout à l'heure.
Eh bien, Henri Gougaud, qu'on connaît comme conteur, qu'on connaît aussi comme écrivain, comme poète, comme romancier, parolier. Enfin, il avait tellement de talents multiples que, voilà, c'était un homme absolument extraordinaire.
J'ai toujours été indiscipliné. Et pendant ma jeunesse, passée au Havre, on n'a jamais pu me plier à une règle. Le collège me faisait même l'effet d'une prison, alors que le soleil était invitant et qu'il faisait bon courir sur les falaises au grand air. Un jour, Eugène Boudin me dit gentiment « Je les regarde toujours avec plaisir, vos croquis. C'est enlevé. Mais vous n'allez pas, j'espère, en rester là. » Alors un jour, j'ai accepté de l'accompagner peindre en plein air.
Vous êtes doué ? Ça se voit tout de suite.
Boudin, avec une inépuisable bonté, entreprit alors mon éducation.
Faites du paysage. Et observez bien les colorations de la nature.
Mes yeux, à la longue, s'ouvrirent.
Claude Monet, dans le documentaire 1874, Naissance de l'impressionnisme, encore disponible sur arte.tv. Bonjour Xavier Mauduit.
Bonjour Ali, bonjour.
Vous êtes agrégé, docteur en histoire, producteur de l'excellente émission Le cours de l'histoire sur France Culture. Et vous avez publié chez Duno Poche avec Cédric Lemagnan, Impressionniste, une autre manière de voir le monde, absolument passionnant. Bonjour Sylvie Patry.
Bonjour.
Vous êtes conservatrice générale et vous êtes la co-commissaire avec Anne Robbins de l'exposition Paris 1874, Inventer l'impressionnisme, actuellement au musée d'Orsay jusqu'au 14 juillet et qui connaît une forte affluence.
C'est un joli succès.
Bonjour Cyril Siama.
Bonjour.
Vous êtes conservateur général en chef, directeur général du musée des impressionnismes à Giverny. Un lieu très très fréquenté en ce moment, le week-end de l'Ascension, a vu une affluence record. Hein.
Oui, comme chaque année, c'est un lieu assez magique où les gens viennent se détendre.
Sylvie Patry, le 15 avril 1874, au 35 boulevard des Capucines à Paris, s'ouvre la première exposition impressionniste. Est-ce que l'impressionnisme est vraiment né à cette date précise? Ou est-ce que Impression Soleil Levant de Claude Monet donne le coup d'envoi de l'impressionnisme cette année-là? On le date de quand exactement, ce mouvement pictural?
C'est une question difficile en fait, parce que effectivement il y a cette exposition qui se tient, donc qui réunit ceux qu'on va appeler les impressionnistes à Paris, et ça ouvre le 15 avril 1874. Mais en fait, il y a des artistes qui peignent pas de façon très impressionniste et très moderne, donc c'est assez éclectique, et ça va prendre quelques jours, quelques mois, quelques semaines et même quelques années, finalement, pour que ce mouvement se constitue réellement et soit bien identifié. Donc 1874, c'est une étape importante. Certains de ces artistes, comme Monet, Renoir, Cicero, Pissarro, Berthe Morisot se connaissaient déjà. Donc on peut dire aussi que dès la fin des années 1860, il se passait quelque chose de nouveau en France, dans le monde de la peinture.
Oui, et puis c'est vrai que ce sont des gens qui ont une carrière avant et après. Il faut le rappeler toujours, et on parle de cette année-là, vous avez raison Ali de dire 1874, parce que ça nous fait un repère, c'est bien sympathique, mais ce sont des destins, des vies avec de longues carrières et des évolutions. On ne naît pas impressionniste et on ne meurt pas impressionniste.
Pourquoi parle-t-on d'impressionnisme, Xavier Mauduit? Je crois que le mot est forgé par le journaliste Louis Leroy dans Charivari pour se moquer d'eux.
Bah oui, c'est de la moquerie hein, au début, et on le voit bien. C'est le Charivari qui lance le mouvement, mais qui est repris dans la presse, on le voit partout. Il est presque de bon ton à ce moment-là de se moquer de ces peintres. Vous savez, c'est compliqué, hein, parce que il y a notre regard d'aujourd'hui, cette longue patine du temps qui fait que aujourd'hui, réellement, personne ne peut aller dans un musée voir un Monet et dire « on dirait du papier peint », comme c'était le cas en 1874. Donc il y a des phénomènes qui font que ces peintres qui sont devenus patrimoniaux, on s'en est moqué, on aime bien s'en moquer, ils ont une existence. En fait, ce qui nous a intéressé avec Cédric Lemagnan, avec qui on a fait le livre, c'est vraiment de l'histoire sociale, c'est savoir qui sont ces hommes, ces femmes, d'où ils viennent et comment ils en sont arrivés à faire ces tableaux-là, et puis comment l'impressionnisme s'est imposé peu à peu comme la référence française au début du XXe siècle, la référence absolue, c'est ce qu'il fallait collectionner pour être riche. D'ailleurs, on aurait dû en acheter à ce moment-là, c'était pas cher.
Ce journaliste, Louis Leroy, que tout le monde a oublié, consterné par le tableau de Monet, Impression Soleil Levant. Quoi qu'il en soit, les impressionnistes se sont réappropriés cette moquerie, Cyril Sciamma.
Bah oui, ils ont beaucoup d'humour eux-mêmes, hein. Ce sont des gens cultivés, qui fréquentent les théâtres, les cafés, les opéras, et donc ils lisent la presse, donc ils ont beaucoup d'humour, et reprennent comme une marque de fabrique, comme un peu comme du marketing, ce terme. Moi, j'aime bien imaginer quand même ces critiques d'art avec leur monocle, qui regardent les tableaux, qui n'y voient rien, et finalement, bah, la leçon de l'histoire, c'est qu'ils se sont fait balayer par le vent, et c'est les impressionnistes qui ont remporté la bataille, avec une histoire de regard, justement.
Sylvie Patry.
Oui, c'est à la fois effectivement un long processus et ce critique Louis Leroy qui a utilisé le terme, en fait, il a beaucoup brodé et on en apprendra davantage sur cette notion d'impression. Et pourquoi impression, c'est dépréciateur? Pourquoi c'est une critique à l'époque? Parce que on pense que l'art, ça reste encore, ça doit être une chose intellectuelle, une cosa mentale, et comme on dit. Et donc il faut que et ces artistes, ils sont accusés de ne se fier qu'à quelque chose de très superficiel. Et puis une impression aussi, dans le jargon de l'époque, c'est une étude, c'est une esquisse. Donc en fait, la provocation, elle est aussi dans le fait que des artistes osent exposer et prétendre vendre des trucs qui ne sont pas finis, en fait, qui devraient rester dans l'atelier.
Monet, Renoir, Sisley, Pissarro, Morisot cherchaient à rendre donc une impression. Leurs œuvres ont durablement impressionné nos rétines, Xavier Mauduit. Ils ont laissé une trace indélébile et non pas une impression fugace.
Oui, et on le voit nettement dans L'œuvre, c'est le titre du roman d'Émile Zola. Il y a une scène où ce peintre impressionniste explique à sa compagne, il dit « Regarde, l'ombre de l'arbre, elle n'est pas noire. Regarde, elle est en couleur, on est dans des bleus, on est dans des violets. » Et elle ne le voit pas. Mais non, l'ombre, c'est noir. Enfin, ben non, parce que l'ombre prend la couleur de ce qui est reflété. Et là, d'un seul coup, on comprend nous-mêmes que notre regard d'aujourd'hui a complètement évolué. Ils nous ont montré des choses. Et c'est vrai que l'idée aujourd'hui de faire des ombres noires, ce n'est plus possible. Et on a vu le monde un peu plus en couleur avec eux. On a vu d'autres choses. Ils ont inventé un paysage qui est le paysage réel. C'est-à-dire que avant eux, il y avait plein de paysages, bien sûr, mais qui étaient des paysages fantasmés, qui étaient des paysages idéalisés. On mettait un arbre ici, une montagne ici, ça n'existait pas. Eux, ils ont montré des vrais paysages, et puis à différentes heures de la journée, hein, c'était très précis. Et donc maintenant, nous, on a notre rétine imbibée de ça. On peut voir la nature différemment grâce à eux.
Sylvie Patry.
Cette question des ombres bleues, des ombres colorées, c'est intéressant parce qu'effectivement, on a même accusé les impressionnistes d'avoir une maladie oculaire, en fait, parce qu'ils voyaient ces ombres indigo, violettes, etc. Et c'est vrai que ce que nous montrent les impressionnistes, hein, au moins dans les années 1870, hein, autour de 1874, c'est finalement un monde qui est complètement instable. En fait, c'est il n'y a pas de couleur en soi, il n'y a pas de rien n'est stable, et tout est histoire de reflets, de relations finalement entre les hommes, le paysage, l'environnement. Enfin, c'est vraiment un monde en flux. Et puis, il y a ce combat, en quelque sorte, même contre le temps, puisqu'il s'agit de capter ce qui passe, ce qui ne dure pas, en fait.
Cyril Sciamma.
Ouais, moi, je trouve que c'est intéressant, c'est l'idée du mouvement. Le 19e siècle, on oublie à quel point c'est un siècle extrêmement moderne, de voyage, d'innovation, de création scientifique, industrielle. Et ils sont complètement dans ce monde-là. Et ce qui est assez formidable, c'est que nous, on regarde ces tableaux parfois de manière un peu passive, mais ils nous demandent en fait d'être acteurs. Mmh. Acteurs, le spectateur doit être acteur, essayer de comprendre ce qui se passe, ce que dit Xavier. On ne comprend pas l'ombre au départ, et puis notre regard fait la focale, on trouve le bon positionnement. Donc, ah là, c'est peut-être ce qu'a voulu faire l'artiste. Donc en fait, on a un rapport totalement différent au monde, mais ça, c'est parce qu'ils sont aussi complètement impliqués dans la société. Je pense que c'est ce que veut dire ça, mais c'est quelque chose de très, très mouvement.
Oui, parce que on le voit bien, le choix de représenter une gare, un pont ou une usine, c'est pas rien. Même nous, aujourd'hui, quand on fait une photographie de paysage, s'il y a une usine, on va changer de cadre pour dire, bah non, on va pas voir la cheminée, c'est vilain. Eh bien, eux, ils le mettent au centre. C'est pas rien, quand même. Et ça, c'est vrai que ça a pu choquer, et on le comprend bien. Ils choisissent comme sujet ce qui, jusqu'alors, pouvait être écarté. Et ils font ce choix absolument sensationnel de montrer à la fois la nature telle qu'elle est aux différents moments de la journée et le monde tel qu'il est avec le chemin de fer, ce que dit Cyril, très important. Imaginez, depuis que l'homme et homme depuis le néolithique pour se déplacer. Il y avait les deux pattes de l'humain ou alors un canasson. Désormais, on peut se déplacer en train. Le monde change à une vitesse phénoménale. Ils vivent ça et c'est ce monde-là qu'ils veulent représenter.
Comment expliquer que le public de 2024 soit encore fasciné, ébloui par les impressionnistes? En témoigne l'affluence record dans vos musées respectifs. Sylvie Patry.
Il y a plein de raisons. Je pense que l'une d'elles, c'est que c'est une peinture qui est accessible au sens où on n'a pas besoin de connaître, par exemple, l'histoire de la religion ou l'histoire tout court pour entrer dans les œuvres, comme le dit Cyril. Les artistes eux-mêmes ont fait en sorte qu'on rentre souvent dans les tableaux. Si vous observez les œuvres impressionnistes, vous voyez qu'il y a des cadrages qui sont un peu hasardeux, comme pris par effraction, et donc on est inclus dans la scène, en quelque sorte. Et puis, il y a quand même ce travail sur la couleur, sur la lumière. Et on parlait des gares, on parlait des usines. Mais ce qui est assez beau, et je pense que ça participe au succès encore de l'impressionnisme aujourd'hui, c'est que finalement, des artistes comme Renoir ou comme Monet, ils vont en faire des objets de beauté, en fait. C'est-à-dire que c'est à cette idée que il faut que la peinture transforme, enfin amène de la beauté. Et y a un terme que Monet utilise souvent dans ses lettres, et en particulier quand il peint la gare Saint-Lazare, il parle de féerie. Donc c'est une capacité à enchanter et à réenchanter le monde, y compris dans ses dimensions les plus triviales de l'époque.
Cyril Sciamma.
Et c'est vrai que c'est aussi une période, on est à la fin du 19e, avant la Première Guerre mondiale, où on a une image très heureuse, en fait. Et c'est peut-être la dernière image très heureuse qu'on a de la civilisation française. Et je dis ça parce qu'on a aussi la littérature, on a Maupassant, on a Flaubert, on a Zola, on a la musique, on a Debussy. Enfin, il y a toute cette ambiance culturelle et de savoir-vivre, de cuisine, qui fait que c'est un moment particulièrement heureux en France.
Et comment expliquez-vous cette affluence chez vous au musée des impressionnismes à Giverny ?
À Giverny, ce qui est exceptionnel, c'est le site. Et ouais. C'est un des rares lieux où on a le jardin tel qu'un artiste l'a créé. Et c'est assez unique au monde. Donc les gens, ils viennent à Giverny comme ils vont au Taj Mahal ou une fois à New York, ou voir les pyramides. C'est un voyage d'une vie. Et c'est vraiment enchanteur.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, donc j'en profite, mais est-ce que c'est une des conditions de possibilité de l'impressionnisme, c'est aussi qu'est inventée à ce moment-là de la peinture en tube qui résiste à l'air libre?
Le matériel des artistes se transforme en effet un petit peu avant, fin 18e, début 19e, et effectivement c'est le moment avant quand on allait peindre en extérieur, parce que un des grands apports de l'impressionnisme, comme l'a dit Xavier, c'est de sortir de l'atelier, en fait, d'aller sur le motif. Ça ne veut pas dire que les peintures sont entièrement exécutées en extérieur, mais en tout cas, on y va. On va dehors, on va dans la rue, on se mêle à la foule. Et pour faire ça, il faut pouvoir transporter ces couleurs. Et avant, les couleurs, elles étaient dans des vessies de porc, c'était pas pratique. Et on invente le tube métallique. Et puis, il y a tout un attirail du peintre, des ombrelles, des chevalets portatifs qui permettent d'aller en extérieur, tant et si bien qu'au 19e, il y a une grande vogue de la peinture en plein air, en extérieur.
Xavier Mauduit.
Et puis, il y a le train. Qui est là, et désormais, c'est plus facile de se déplacer. Vous voulez aller voir la mer, le Paris, le Havre, en train, c'est plus simple qu'en diligence.
Allez, dans un instant, on continue à célébrer l'art des impressionnistes. Ce sera juste après le choix littéraire de Christie Lapelle-Edouel. Alors Christina, vous avez tenu à rendre hommage à l'immense conteur Henri Gougaud, né le 7 juillet 1936 à Carcassonne et décédé le 6 mai dernier à l'âge de 87 ans. Henri Gougaud, homme de radio, conteur, parolier, notamment de Juliette Gréco et de Serge Reggiani. Il se disait le descendant direct des troubadours occitans.
Et oui, il était le fils, vraiment, il le disait, hein, du pays occitan et plus précisément du pays cathare, de l'Aude. Il avait cet accent et cette voix absolument magnifique qui faisait de lui un conteur, mais il était aussi un poète. Est-ce que vous vous souvenez de cette chanson de Reggiani qui a été très célèbre et qui s'appelle « Paris, ma rose » ? Et qui célèbre Paris, qui est dans un des albums de Reggiani, qui a été un immense succès. Et voilà, il en a écrit, il en a lui-même chanté, hein, parce qu'il a chanté dans les cabarets. Et puis, c'était un poète, un romancier, je l'ai déjà dit, une voix. Il était libertaire et libre. Les deux ne sont pas incompatibles, me semble-t-il. Et peu à peu, il est devenu très intéressé par la spiritualité. Enfin, moi, je pense d'ailleurs qu'il devait l'être déjà depuis longtemps. Et les contes ont permis pour lui de faire une espèce de passage vers un monde plus métaphorique que le conte réellement, strictement interprété. Voilà. Alors il a écrit des romans. Un qui est magnifique, qui est le premier qu'il ait publié, qui s'appelle Balibaste, et qui se passe justement à Albi, au moment du catharisme. Et puis, il a écrit cette série de contes. Alors là, il s'agit de La Clé des Cœurs, Contes et Mystères du Pays Amoureux. Il en a écrit d'autres, Le Livre des Chemins. Et alors, il a eu cette idée absolument formidable et complètement inattendue d'en faire un livre divinatoire. C'est-à-dire qu'il propose tout simplement, alors qu'on y croit ou pas, peu importe, c'est quand même une démarche très littéraire, je trouve. On pose la main gauche sur le livre en pensant, en fermant les yeux et en pensant à une question évidemment qui concerne l'amour. Et puis, au hasard, avec une des clés, alors je vais essayer d'en sortir, voilà, une des clés, hop, on trouve une page, on l'ouvre et là, en principe, on a la réponse à sa question. Alors, bien entendu, c'est une question d'interprétation, mais voilà, tout l'esprit de Gougo est là. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, de faire des tournées littéraires avec lui. Il m'avait dit une chose extraordinaire, il m'avait dit que son animal totem, c'était le loup. Et moi, je le vois très bien, comme ça, cette grande silhouette, toujours habillée de noir, avec son chapeau. Il avait, ouais, quelque chose d'un loup.
Redonnez, s'il vous plaît, le titre de ce livre.
Alors, c'est La Clé des Cœurs, Contes et Mystères du Pays Amoureux, chez Albin Michel, et on le trouve toujours.
Tiens, écoutons la voix d'Henri Gougo dans la grande librairie en 2021.
Et un jour, je tombe sur un texte, un conte, et me vient une question. Cette histoire-là, apparemment anodine, peu vraisemblable, on ne peut pas croire à ce que les animaux parlent, etc. Il a traversé cette histoire-là, a traversé les générations, a traversé les siècles, et elle s'est pas perdue. Alors que tellement d'œuvres réputées immortelles à leur époque se perdent dans les sables du temps, les contes qui ne sont rien que de petites histoires, qui n'est rien que de la littérature pour illettrés, eux, ils durent.
Hommage à Henri Gougo, décédé le 6 mai dernier. Puis j'aimerais rendre hommage également à l'immense écrivaine canadienne Alice Munro, décédée cette semaine à l'âge de 92 ans. Alice Munro, prix Nobel de littérature en 2013. Alice Munro, qualifiée de maître de la nouvelle contemporaine, souvent comparée à Tchekhov ou Henry James. L'œuvre d'Alice Munro parle d'émancipation, de lutte contre l'enfermement, d'illusion, de déception, de reconstruction, comme le rappelle si bien Thomas Taylor dans Libération. L'écrivain Jonathan Franzen répétait « Lisez Munro !» avec un point d'exclamation « Lisez Munro !» Et l'autrice de La Servante écarlate, Margaret Atwood, disait d'Alice Munro qu'elle était l'un des principaux écrivains de fiction anglais de notre époque. Et notre amie Julie Neveu, que l'on retrouve le vendredi dans cette émission, m'a écrit un SMS. « Munro est une écrivaine universelle et féministe qui, même à l'intérieur de ce format court, arrive à faire vivre l'intensité souvent douloureuse, parfois poétique de nos vies, des vies de femmes, donc qui s'évadent en vrai ou en rêve pour fuir le poids, la violence ou la frustration de leur vie domestique, la déception de la conjugalité, de ces hommes qui sont comme dans Les Fugitives, incapables de mettre de l'eau à bouillir, ces femmes qui malgré tout saisissent la beauté de la vie dans des moments minuscules, une herbe qui frémit, cette main tiède contient dans la sienne, l'amour fragile, la mort absurde. Fin de citation de Julie Neveu. Christina.
Je peux ajouter un mot après ce magnifique panégyrique. Je ne peux évidemment qu'aller dans votre sens. Et j'ajoute que tous les recueils, et on a écrit beaucoup d'Alice Munro, ont cette capacité extraordinaire dans si peu de pages. Et entre les lignes, c'est ça la force de Munro, c'est que ce n'est pas jamais démonstratif, mais c'est toujours allusif. Et entre les lignes, on comprend et on perçoit tellement de choses de la vie quotidienne et de la destinée humaine et féminine. C'est extraordinaire. Il faut la lire, je plus sois. Et il faut que les bibliothèques aient Alice Munro. Et je ne parle même pas des libraires.
Parce que son lectorat
est difficile de la trouver.
Et relativement confidentiel en France. Donc n'hésitez pas à lire Alice Munro, l'un de ses recueils de nouvelles comme Trop de bonheur ou Fugitive, publié en poche et point. Allez, il est temps de retrouver notre ami du vendredi avec Sandra Colombo.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et
évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Alors ma chère Sandra Colombo, qui deviendra notre amie cette semaine ?
Eh bien c'est Vincent Van Gogh. Et je dois vous avouer, Ali, que mon histoire avec Vincent a très mal commencé. Pour tout vous dire, au début je le trouvais nul. Et ça m'énervait parce qu'on n'arrêtait pas de me répéter que c'était un génie. Et Van Gogh par-ci, et Van Gogh par-là. Oui, bon, alors moi la première fois où je l'ai vu Vincent, c'était dans un endroit où, comme aurait dit ma grand-mère, même le roi va seul. Et je ne voyais pas bien ce qu'un génie allait faire là-bas. Et oui Vincent, la première fois où je t'ai croisé, c'était chez une copine d'école. Ses parents avaient un tableau de toi bien exposé dans cette pièce qui, quand on a quelques lettres d'argot, peut rimer avec ton nom. Dans mon cerveau de petite fille, cette reproduction, c'était un vrai tableau. Oui Ali, à l'époque j'étais pas la couleur la plus brillante de la palette, c'est vrai. Ensuite, j'ai découvert des trucs encore pires que ces tournesols posés comme ça sur une table dans un vase pas super. Pour peindre le ciel, Vincent, tu fais des spirales. Non mais c'est n'importe quoi. Et puis alors, tous ces gens que tu peins, mais ils sont tellement tristes. Personne ne sourit dans ton monde, Vincent. Et ce truc-là, de te couper une oreille, parce que tu te serais disputé avec ton pote Gauguin. Non mais non, ça c'est pas possible, Vincent. Hein. Faut pas se faire du mal comme ça. On t'a jamais parlé de thérapie ? Tu sais, un bon psy, ça aide dans la vie. Et puis un jour, je rencontre un amoureux qui lui était totalement amoureux de toi. Et Vincent par-ci, et Vincent par-là, il voulait absolument me faire découvrir ton travail. Il disait même qu'il ne pouvait pas m'aimer complètement tant qu'il n'aurait pas vu ma réaction devant un vrai Van Gogh. C'est sympa, non ? Alors bon, bah, sous la pression, j'accepte donc d'aller te voir en vrai dans ton musée à Amsterdam. Et c'est ce jour-là que tu es devenu mon ami pour la vie, Vincent. Ce jour-là, que grâce à toi, j'ai compris que les tableaux, quand on les voit en chair et en os et qu'on les regarde vraiment, on y perçoit toutes les facettes d'un artiste. J'ai compris que tes tournesols, ce ne sont pas simplement des fleurs dans un vase, c'est toute ton âme qui crie comme si elle appelait le soleil. Et j'ai vu tout ce que je ne voyais pas dans ce poster moche chez ma copine. Les épaisseurs, les multiples couches, les couleurs incroyables, les proportions pas respectées qui racontent la liberté. J'ai compris que quand tu peins des natures que les autres appellent mortes, elles deviennent vivantes. Et plus je déambulais dans ton musée, plus je t'aimais, Vincent. Mais c'est devant Fleur d'Amandier, ce tableau que tu as fait comme cadeau de naissance à ton neveu qui porte le même prénom que toi, que j'ai craqué. J'avais l'impression d'être sous cet amandier en fleurs, en train de t'observer le capturer sur la toile. Je pouvais sentir la douce caresse du soleil sur ma peau, entendre le murmure du vent dans les branches tortueuses. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux de ce ciel aux mille nuances de bleu. Alors je me suis assise et j'ai pleuré. Pleuré parce que j'étais submergée par la beauté infinie que tu as mis dans ce monde. Pleuré parce que je venais de comprendre pourquoi tu étais un génie. Pleuré parce que je comprenais que je n'avais rien compris, que j'avais jugé trop vite. Depuis ce jour, Vincent, quand je vais pas super, je repense à toi, à ce moment-là, à ce choc que tu m'as procuré, à cette leçon que tu m'as apprise. Merci de m'avoir appris que parfois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour comprendre le monde d'un autre que soi.
Du rire aux larmes avec la belle chronique l'ami du vendredi de Sandra Colombo. Qui veut réagir autour de la table, Xavier Mauduit ?
Ah mais Sandra touche particulièrement juste en évoquant la sensation que l'on peut avoir devant ces tableaux-là. Je reprends la Pierre Bourdieu, le sociologue, quand il bosse sur Manet, il dit « Le vrai scandale, c'est de ne plus comprendre le scandale de Manet. » Et pour les impressionnistes, pour moi, c'est ça aussi le scandale. Quand on va visiter ces musées, on passe devant un Monet, c'est très beau, et on ne perçoit même plus pourquoi ça fait scandale, et donc on perd l'audace du tableau. Et ça me semble vraiment important de savoir pourquoi, en 1874, entre autres, parce que ça va continuer après, il y avait une telle effervescence autour de ces tableaux, parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas l'œuvre. Et c'est pareil pour Van Gogh, ça marche aussi.
Sylvie Patry ?
Moi, je trouve que c'est une chronique merveilleuse, parce que finalement, l'art, c'est fait pour ça, c'est fait pour aider à vivre, à mieux vivre et à mieux regarder.
Petite précision, Vincent Van Gogh, et vous l'écrivez dans votre livre, Xavier Mauduit, qui n'est pas à proprement parler un peintre impressionniste, mais pour vous, il inspire tellement ce mouvement qu'il serait dommage de l'écarter de ce portrait de groupe.
Oui, en fait, il fait partie du groupe, parce que quand on parle d'impressionnisme, on parle de l'histoire de l'art, donc d'une certaine esthétique, mais on peut parler aussi d'une histoire sociale. Ce sont des groupes, des humains, des gens, des hommes, des femmes qui se rencontrent, et lui, il tourne autour, il a une petite période impressionniste, il s'y essaye, ça ne dure pas très longtemps, mais après, c'est ça sa force, il est Vincent Van Gogh.
Merci Sandra Colombo. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Lisiane Larbani, Joachim Taïeb et Cyrine Benyounès, avec l'aide de Charles Thierry, à la réalisation Claire Destacan, à la programmation musicale Valentine Chedebois. Merci aux documentalistes, aux standardistes et aux techniciens qui se sont succédés tout au long de la semaine. Dans un instant, le plaisir de regarder des tableaux impressionnistes, ce sera juste après avoir écouté Marie Laforêt qui interprète une chanson de 1967, Mon amour, mon ami.
C'est pour toi, mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas connu d'autre garçon que toi, si j'en ai connu, je ne m'en souviens pas. À quoi bon chercher, faire des comparaisons, j'ai un cœur qui sait. Qui a pris ton nom. Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je sais très bien pourquoi. Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi. Mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour. Je ne sais plus pourquoi.
Marie Laforêt, mon amour, mon ami.
C'est sympa ce qu'il fait, Monet.
Sympa.
France Inter.
Et c'est magnifique.
Ça, c'est quoi?
Une nature morte.
Morte?
Oui, morte, oui.
Combien t'as payé ça?
600 000.
Grand bien vous fasse.
600 000 euros.
Oui, euros, oui.
Pour une poire et une banane?
Oui.
Dis-moi, heureusement qu'il n'a pas peint une salade de fruits.
Ali Rébéi.
Et ce matin, nous célébrons le plaisir de regarder des tableaux impressionnistes 150 ans après leur première exposition à Paris. La culture populaire s'est emparée des impressionnistes. On a encadré des reproductions dans nos salons, on a reproduit des tableaux de Monet ou de Renoir sur des boîtes de chocolat. L'impressionnisme a pu être galvaudé parfois.
Oui. Bon, je veux dire honnêtement, il y a ces phénomènes de génération qui font que l'impressionnisme aujourd'hui célébré, dans les années 1950-1960, c'était un peu ringard. Hein. C'est là aussi qu'il fallait acheter de l'impressionnisme.
C'est vrai.
C'était pas si cher que ça. Enfin, quand même, ça l'était, mais pas tant que ça. Non, non, il y a des phénomènes comme ça qui font, et c'est tout à fait normal, faut le rappeler, Monet meurt en 1926. Hein. Il meurt tard et déjà, on est passé à autre chose. Le cubisme a fait coucou, le dadaïsme aussi. Donc, l'impressionnisme doit être resitué dans l'histoire de l'art et le goût que l'on a pour l'impressionnisme aussi.
Sylvie Patry, co-commissaire de l'exposition Paris 1874, inventer l'impressionnisme au musée d'Orsay.
Oui, c'est effectivement, il y a des moments où l'impressionnisme a été plus populaire que d'autres, et c'est une histoire longue. Mais ce qui frappe aussi, c'est que c'est un mouvement qui a été très vite international et qui a été vraiment diffusé dans le monde entier, et du vivant des artistes qui d'ailleurs au départ étaient assez réticents, hein, qui voyaient pas l'intérêt notamment d'être diffusé aux États-Unis. Donc il y a eu tous ces mouvements internationaux. Il y a le rôle du marché de l'art, le rôle des musées évidemment, le rôle des livres, et ça a pu contribuer à galvauder en quelque sorte parce que il y a eu beaucoup de reproductions. Or, comme on l'a dit un petit peu plus tôt dans l'émission, c'est quand même beaucoup une affaire de lumière, de sensibilité, et aussi, ce qui est important, on n'a pas parlé de touche, de facture. Et c'est en ça aussi que les impressionnistes choquent, c'est parce qu'on voit la touche, on voit la façon dont c'est peint, on voit même parfois la toile. C'est un peu cette idée que le travail est encore en train de se faire sous nos yeux, et c'est ce qui fait que le tableau nous semble vivant, en fait.
Cyril Siama, directeur général du musée des impressionnismes à Giverny.
Il y a quelque chose qui est aussi intéressant à voir, c'est que dans les années 50, la France a un peu oublié Monet, et c'est les Américains qui vont le redécouvrir. Et donc, nous, à Giverny, on a fait Monet-Rodko, parce que ça me paraissait évident qu'il fallait faire un rapport entre les deux, mais c'est aussi deux voies de la modernité. Il y a des gens qui parlent, en effet, comme dit Xavier, de la modernité avec le cubisme et Cézanne, avant, et puis il y a des gens qui parlent de Monet comme, avec l'abstraction. Donc c'est aussi les créateurs du XXe siècle qui ont redécouvert Monet et qui l'ont remis au goût du jour. Je parle de ça, mais aujourd'hui, ou hier, il y a eu un tableau de Monet qui était vendu, des meules, chez Sotheby's, 35 millions de dollars. Ça veut dire que ça parle encore de nos jours, et à la fois au marché, mais aussi aux spectateurs, et aussi aux Américains.
Ce qui parle encore de nos jours, c'est que les impressionnistes ont su dire ce que nous ressentons face à la nature, par exemple, sans trouver les mots justes pour l'exprimer. Vous avez Mauduit.
Oui, il y a vraiment de ça. Ils ont réussi, et le mot impression qui donne impressionnisme n'est vraiment pas galvaudé, à donner le sentiment de la chose. C'est vrai que quand on réfléchit à l'art à ce moment-là, c'est cet aspect figé, ces sujets différents qu'ils ont pu proposer. Mais surtout, ils ont apporté, moi je trouve, pour ça le plus important, et la couleur et le mouvement. Et trouver du vent, c'est pas rien de représenter du vent. Trouver le mouvement de la mer, c'est pas rien. On a un moment où la photographie s'impose, et là on constate que pour les portraits, c'est parfait. C'est mieux que d'aller payer un mauvais peintre qui fait un mauvais portrait. Mais alors, pour l'eau, c'est la catastrophe. Pour la nature, c'est la catastrophe. L'eau ne bouge pas, les feuilles ne bougent pas. Bah, les impressionnistes arrivent et ils disent « Nous, on va vous faire bouger tout ça. »
Sylvie Patry, les impressionnistes semblent... Ils sont obsédés par la nature. Qu'est-ce que ça raconte en pleine révolution industrielle, en cette fin du 19e siècle? Et pourquoi le paysage est-il devenu un genre moderne?
Alors, le paysage, c'est un genre qui a beaucoup de succès au 19e siècle. Et la nature que représentent les impressionnistes, c'est jamais une nature vierge. C'est une nature qui est domestiquée. Donc, en fait, ce sont des jardins où c'est une nature qui a déjà été transformée ou qui est utilisée par l'homme. Donc, c'est une nature qui est assez rassurante. Et de ce point de vue-là, les impressionnistes, ils enregistrent aussi les modifications du paysage, oui. L'évolution de cette nature. En fait, c'est une nature qui finalement a une histoire. Et parfois, on projette une image idyllique sur des sites qui, à l'époque, étaient des sites assez ordinaires. Par exemple, ce tableau de Monet, Les Champs de Coquelicot, qui est présenté à la première exposition de 1874 et qui est dans notre expo en 2024. Donc, peut-être vous l'avez en tête, avec cette femme avec un enfant. Enfin, il y a deux femmes chacune avec un enfant qui marchent dans un champ avec des coquelicots rouges éclatants. Et en fait, on est à Argenteuil, en banlieue, et ce sont les Remblais, en fait, qui ont servi à construire Paris, qui se sont fleuris de coquelicots. Donc, c'est pas une nature complètement vierge. Et d'ailleurs, maintenant, ce tableau intéresse les scientifiques aujourd'hui, puisque, comme vous le savez, les coquelicots, il y en a de moins en moins. Et donc, le tableau lui-même devient témoignage des changements actuels.
Alors, je vous ai demandé de choisir un tableau impressionniste. C'est très, très difficile, je sais. Vous allez nous dire ce qu'on y voit, quelles sont vos impressions en voyant ce tableau et pourquoi vous l'aimez. Cyril Siama, qu'est-ce que vous avez choisi?
Ah, alors moi, j'ai choisi un tableau de Claude Monet qui est conservé au musée d'Orsay, qui s'appelle Le Lilas en gris. D'abord, c'est un vieux souvenir de jeunesse, parce que j'ai eu cette carte postale pendant très longtemps. Et un jour, je serai peut-être conservateur et j'aurai peut-être la chance de voir ce tableau de plus près.
Racontez-nous ce qu'on y voit.
Et en fait, c'est un tableau qui représente deux personnages sous un bosquet de lilas. Il y a une jeune femme et un jeune homme, certainement Camille, c'est peint vers 1872-1873, c'est donc certainement l'épouse de Claude Monet. On est à un moment un peu suspendu, c'est une nature en effet qui est à la fois sauvage et domptée, c'est-à-dire que l'arbre est taillé, mais cette nature, elle sert d'écrin, d'alcôve à une histoire d'amour. Et je trouve que c'est une belle représentation de l'impressionnisme. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? C'est quoi l'impression? C'est un moment fugitif, un moment peut-être amoureux, un moment amical, un moment de partage, un moment aussi à l'ombre des regards. Et on est, nous, spectateurs d'une histoire intime, et la nature sert d'écrin à cette histoire-là. Et je trouve que c'est une histoire totalement universelle, avec une palette très douce. Il existe une autre version où c'est une palette beaucoup plus claire. Et je trouve que celle-ci me bouleverse beaucoup plus, parce que c'est un petit peu crépusculaire. Et on a la magnifique touche de Monet. C'est d'abord, il dessine très bien, on oublie souvent, hein, c'est des magnifiques artistes. C'est très bien composé. Et puis, il y a une touche qui est encore extrêmement subtile, où le rose, le violet, le vert se mêlent dans une diagonale merveilleuse. Donc, c'est un petit bijou à découvrir au musée d'Orsay.
Les lilas tangris de Monet, peint en 1872. Qu'avez-vous choisi, Sylvie Patry?
Alors moi j'ai choisi aussi une œuvre de Monet, alors à la fin de sa vie du coup, le cycle d'Anaïmphéa qu'on peut admirer au musée de l'Orangerie. J'aurais peut-être dû choisir une artiste femme quand même, parce qu'il y avait des femmes chez les impressionnistes.
Berthe Morisot notamment.
Alors pourquoi les Nymphéas de Monet? Parce que c'est une œuvre d'art totale, parce que ça a occupé le peintre pendant 30 ans. Ça a été une obsession, comme il le dit lui-même. Il représente donc son bassin aux Nymphéas, qu'il a planté lui-même quand on parlait de nature. Là c'est vraiment une création de l'artiste. En fait l'artiste, avant de commencer à peindre, il a transformé le paysage et ensuite il a peint à même le paysage, si je puis dire. Donc c'est une démarche qui est très contemporaine aujourd'hui. Il y a des artistes qui font du land art, hein, qui transforment le paysage. C'est ce qu'a fait Monet. Et au résultat, en fait, on est complètement immergé. C'est aussi première œuvre immersive, en quelque sorte. On pénètre dans ces deux salles ovales. C'est l'artiste lui-même qui avait dessiné, conçu la façon dont on allait présenter cette œuvre, et on y trouve beaucoup de paix, de poésie. Voilà, c'est un bijou, c'est un refuge, c'est un lieu de paix.
Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens des frissons quand je vois ce bassin des Nymphéas absolument sublime de Monet, peint donc en 1899. Vous, Xavier Mauduit, vous avez choisi une œuvre de Camille Pissarro.
Ouais, Pissarro.
Pourquoi?
Pissarro...
Qu'est-ce qu'on y voit d'abord?
Déjà, cette œuvre, c'est le boulevard Montmartre, effet de nuit, parce que Pissarro était parti, mais à la demande de Durand-Ruel, le marchand d'art, il avait pris une chambre d'hôtel, il a peint des séries, comme ces impressionnistes, il peignait des séries, donc il est à la fenêtre de son hôtel et il peint le boulevard Montmartre à différents moments. Et là, c'est la nuit et c'est absolument sublime parce que il y a ce ciel de nuit extrêmement profond, ces lumières. On voit les voitures hippomobiles, bien sûr. On est en 1897 et il y a cette effervescence. Ces passants, ils sont comme ça complètement fondus par des touches. On sent cette humidité sur les pavés et il y a la vivacité de la vie du quotidien, la vivacité de la ville qui se transforme, hein, c'est cette grande urbanisation, c'est le Paris d'Haussmann qui se poursuit. Et puis, on a ici quelque chose qui touche à la ville, alors que Pissarro, c'est aussi un peintre comme beaucoup d'impressionnistes de la campagne. Il est du côté de Pontoise. Et Pissarro est drôlement intéressant. Mmh. C'est le seul de tous ces peintres à avoir été présent aux 8 expositions des impressionnistes, hein, de 1874 à 1886. Je vais vous rappeler, hein, Monet, il n'est pas dans toutes les expositions impressionnistes. Non, mais ça montre, hein, des trajectoires différentes. Il est proche des anarchistes, c'est un libertaire, donc un petit clin d'œil à Henri Gougaud, là encore. Il est aussi dans cette recherche de l'émotion, c'est pas du Van Gogh, mais on a quelque chose ici qui joue sur la nuit étoilée. Non, moi je me plonge, j'ai envie d'aller dans cette ville qu'il nous propose, Pissarro.
Boulevard Montmartre, effet de nuit de Pissarro, un tableau de 1897. Très vite, autour de la table, qu'avez-vous choisi, vous, Thibaut de Saint-Maurice?
Oui, c'est la série des cathédrales de Rouen de Monet. C'est une série que j'ai découverte quand j'avais une vingtaine d'années. Et en fait, j'ai trouvé que c'était une démonstration magistrale, puisque le principe de la série, c'est qu'il peint la façade de la cathédrale de Rouen avec un cadrage qui est à peu près le même, à différentes heures de la journée. Et à chaque fois, on a un tableau différent, même si c'est le même. Enfin, voilà, la démonstration est magistrale. Moi, qui ne connais pas grand-chose à la peinture, et ça m'a tout de suite, voilà, j'ai compris et ça m'a ému aussi. Donc, les deux étaient réunis.
Priscilla.
Moi, j'ai choisi le célèbre impression Soleil levant pour plusieurs raisons. D'abord, la beauté, hein, elle saute aux yeux, évidemment. Cette sensation incroyable. Alors, il faut regarder le tableau de loin pour avoir toute l'ampleur du paysage. Et aussi parce que, en effet, c'est l'entrée fracassante des impressionnistes, et le premier tableau dit comme ça. Et quand on sait que, en même temps, il y avait Émile Bouguereau qui peignait ces tableaux qu'on voit également à Orsay, ils sont contemporains, on comprend tout de suite ce que disait Xavier tout à l'heure, c'est-à-dire le côté absolument, la rupture et la révolution.
Grégory Cohen.
Alors moi, c'est Renoir, évidemment le bal du Moulin de la Galette. Comment dire, c'est tellement moderne. C'est incroyablement moderne. Ça pourrait être aujourd'hui une photo Instagram qu'on mettrait.
Ça m'étonne pas de vous, ça.
Mais non, mais vraiment, c'est un instantané. Puis c'est un instantané de la société. Il y a tout. Et on le voit par rapport aux couvre-chefs. Il y en a qui ont des canotiers, d'autres qui ont des hautes formes, les crinolines. Il y en a qui sont adossés à une table, sur un banc, en train de parler, d'échanger ce moment. Il y a une vie absolument folle et profonde. Ce tableau, pour moi, il est magistral.
Sandra Colombo.
Alors moi j'ai choisi les raboteurs de parquet de Caillebotte parce que c'est un tableau que j'adore, parce que je crois que c'est la première fois que j'ai compris que la classe ouvrière qui est représentée peut faire du beau, parce que d'habitude on représentait beaucoup les usines, le noir, la crasse, la pauvreté, et là je trouve que c'est magnifique parce que ces hommes fabriquent du beau chez les riches, et les riches vont marcher toute la journée sur le beau fabriqué par des pauvres, et je trouve ça joli.
Allez, il est l'heure de retrouver la chronique de Thibaut de Saint-Maurice, et j'ai l'impression que ça va être pas mal.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne, jamais.
Alors ce matin, Thibaut, vous nous posez une belle question que l'on se pose toutes et tous dans la vie. Faut-il se fier à nos impressions ?
Mais oui, Ali, parce que s'il y a bien des personnes donc qui, elles, se sont fiées à leurs impressions, on vient de le dire, ce sont les peintres impressionnistes. Ils ont même fait de ces impressions, donc le point de départ, toute une révolution du regard. Et apparemment, ils ont plutôt réussi leur coup, car donc les expositions sont pleines, les tableaux continuent de cartonner à chaque fois qu'ils sont exposés et continuent d'incarner une sorte de beauté universelle. Et pourtant, une impression, eh ben, c'est fragile, c'est fugace, et c'est parfois difficile même à isoler d'autres impressions, c'est éminemment subjectif, ça change avec l'heure du jour et la lumière, et surtout, on lui reproche donc de ne pas être fiable, de ne vivre que dans le règne de l'apparence et de finir par nous tromper. C'est pour cela que beaucoup de philosophes s'en méfient et leur dénient toute capacité à produire de la connaissance. À lire Platon ou Descartes, les sensations qui impriment nos sens sont incapables de nous faire connaître ce que sont les choses auxquelles elles se rapportent. Et c'est pour ça aussi donc que nos parents prudents nous apprennent à nous méfier de nos impressions, à ne pas confondre l'habit et le moine ou à ne pas juger un livre d'après sa couverture.
Mais Thibault, les impressions sont-elles vraiment coupables de ce qu'on leur reproche ?
Eh bien, pas vraiment, en fait. Une impression, c'est bien une impression et pas un compte-rendu d'analyse. Il ne faut pas lui demander plus que ce qu'elle est. Le chaud, le froid, du bleu, du rouge ou cette couleur entre le jaune et le vert qui me rappelle la couleur des volets de la maison de ma grand-mère, l'aigu du chant des oiseaux ou le sucré salé d'une recette de Grégory. Eh bien, tout ça, ce sont des impressions que me livrent mes cinq sens. Et en tant que telles, elles ne disent rien d'autre que ce qu'elles sont. Une certaine manière de me toucher, de réveiller ma sensibilité. Le problème, c'est quand on veut aller trop vite et qu'on en tire des conclusions trop rapides. C'est ce qu'explique Descartes dans la toute première phrase de son gros livre intitulé « Principes de la philosophie ». Tout le problème, ce ne sont pas nos impressions, mais le fait que nous y soyons sensibles, presque trop sensibles, avant que nous ayons appris à les analyser en faisant un bon usage de notre raison. Si nous avons donc l'impression que nos impressions nous trompent, c'est donc toute notre faute. Mais si nous accueillons nos impressions pour ce qu'elles sont, ni plus ni moins, alors elles disent la vérité du moment. Et c'est sans doute là une part du génie de ces peintres impressionnistes, hein, donc Monet, Van Gogh, Pissarro, Renoir ou Morisot, avoir transformé la fragilité de l'impression en une force d'expression de la vérité du réel. C'est ce que des philosophes, quelques années plus tard, comme l'allemand Husserl ou le français Merleau-Ponty, vont essayer de penser à leur suite. Alors ça donne un mot compliqué, la phénoménologie, mais pour désigner une nouvelle manière assez simple de penser le réel comme ce qui s'imprime en nous au gré de nos perceptions et que nous devons apprendre à décrire fidèlement. Voilà, il ne faut donc pas se méfier de nos impressions, mais plutôt se mettre à leur écoute, les respecter pour ce qu'elles sont et s'émerveiller de leurs nuances et de leurs richesses. Elles ne nous éloignent pas de la vérité, mais la révèlent en réveillant notre sensibilité frissonnante. Proust le dit quelques années plus tard à sa manière, « Une heure n'est pas une heure, c'est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de climats. » Voilà, nos impressions nous entourent, mais nous avons besoin des artistes, peintres, écrivains ou musiciens pour nous apprendre à leur faire confiance.
Thibaut, vous voulez que je vous dise la première impression que j'ai eue en vous voyant pour la première fois
en rentaine.
Non, une très bonne impression. Sandra Colombo.
Oui, ben moi je suis ravie de cette chronique parce que du coup j'ai eu l'impression d'être comme Monsieur Jourdain, j'ai fait de la philosophie sans le savoir. Je vous remercie beaucoup Thibaut de Saint-Maurice.
Merci Thibaut de Saint-Maurice. À suivre les nourritures bien terrestres là, de Grégory Cohen, une recette inspirée du très gourmand Claude Monet. Ce sera juste après avoir écouté l'un des titres du tout nouvel album de Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft en exclusivité sur France Inter.
I want you to stay till I'm in the grave, till I run away.
Et on vient d'entendre le tout nouvel extrait de l'album Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish à l'occasion de la journée spéciale sur France Inter. Grégory Cohen, une recette inspirée des plats préférés de Claude Monet. Claude Monet qui avait le culte de la table. Dès le petit déjeuner, il pouvait déguster charcuterie, fromage, œufs, marmelade, tranches de pain rôti et pourquoi pas de l'andouille grillée, accompagnée pourquoi pas également de marmelade d'orange. Ça constituait parfois son petit déjeuner. Hein. Et on peut citer sa chère cuisinière Marguerite. Alors vous, vous êtes inspiré de ses goûts culinaires.
De ses goûts culinaires, d'ailleurs d'un dessert, enfin, ou d'un gâteau qui est à peu près contemporain de Claude Monet, puisqu'il a été retravaillé aux alentours des années 1850. C'est le pain de Gênes. Alors le pain de Gênes, il est assez facile à faire, même très facile à faire, et je vais vous rajouter après, en bonus, une petite marmelade d'orange pour la déguster à la Claude Monet. Alors pour faire ce pain de Gênes, il nous faudra 200 g de pâte d'amande, 250 g de beurre pommade, c'est-à-dire qu'il est un peu doux, mais pas fondu, 300 g de sucre semoule, 80 g de farine et 6 œufs. On va commencer par préchauffer évidemment son four à 160 degrés, cuisson pas trop forte. Dans un récipient, on va mélanger le sucre, la farine, on met ça de côté. Et au batteur, on va travailler la pâte d'amande à la feuille pour l'attendrir, c'est-à-dire pour qu'elle soit un peu moins dure. On incorporera alors les œufs et le beurre pommade. Une fois le mélange homogène, on ajoute le sucre, la farine, on continue à mélanger, on obtient un appareil amalgamé qu'on va verser dans une plaque graissée, recouverte de papier sulfurisé, et qu'on va faire cuire 15 à 20 minutes à 160 degrés. C'est tout, c'est simple, et c'est le pain de Gênes. On va après s'attaquer à la marmelade d'orange. Alors moi, en ce moment, j'aime bien les oranges sanguines. On va prendre 200 g de suprême d'orange sanguine. Le suprême, c'est en fait quand on va découper les quartiers sans avoir le blanc. La membrane blanche qui se trouve entre les quartiers, donc que les quartiers d'orange. 20 centilitres de jus d'orange, 100 g de sucre, 8 g de pectine, du jus de citron jaune idéalement. On va mélanger tous les ingrédients, on va porter ça à ébullition, on va baisser le feu, on va cuire pendant 15 à 20 minutes à frémissement, le temps que ça compote un petit peu, et puis on va laisser refroidir. On va utiliser cette marmelade sur le pain de Gênes. Il y aura un peu d'amertume, il y aura un peu d'acidité, et il y aura le fondant du pain de Gênes, et c'est magnifique.
C'est magnifique pour notre body summer, pour notre corps de
cet
été. C'est du
100% body summer, je vous le dis.
Et on peut lire avec profit les carnets de cuisine de Claude Monet à Giverny. C'est publié aux éditions du Chêne. Je parle sous votre contrôle, Cyril Siama.
Oui, c'est vrai que Monet était très gourmand et c'était un peu un culte de la cuisine chez lui. Sa cuisine était extraordinaire.
Xavier Mauduit.
On a commencé l'émission en l'évoquant, donc on pourrait faire une recette d'Eugène Boudin aux pommes aussi.
bravo. Et on peut retrouver votre recette sur votre compte Instagram, Grégory Cohen Off avec
Deux F.
Merci Xavier Mauduit. Je recommande vraiment la lecture de votre livre impressionniste, Une autre manière de voir le monde, chez Dunod Poche. Merci beaucoup Sylvie Patry d'être venue. L'exposition Paris 1874, inventer l'impressionnisme, c'est jusqu'au 14 juillet au musée d'Orsay. Il y a beaucoup de monde et voilà, il faut peut-être réserver des créneaux.
C'est bien de réserver. Il y a aussi l'exposition en réalité virtuelle qui, elle, est ouverte jusqu'au mois d'août, jusqu'au 11 août.
Et merci Cyril Siama. On peut visiter le musée des impressionnismes de Giverny. Mais voilà, il faut adapter sa venue selon l'affluence qui est record en ce moment.
On a l'exposition qui s'appelle L'impressionnisme et la mer actuellement.
Et demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 9h30 dans l'émission Bel et Bien sur France 2, co-présentée avec Agathe Le Caron. Et lundi, dans Grand Main vous fasse, le sucre est-il vraiment l'ennemi public numéro 1 de notre alimentation? Réponse lundi avec nos invités.
Grand Bien vous fasse, à retrouver sur France Inter du lundi au vendredi matin à partir de 10h. Une émission disponible aussi à la réécoute et en podcast sur franceinter.fr.
lasting wager.
Juste après les infos, Interception, le magazine de reportage de la rédaction.